Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h10, club de la presse numérique, notre rendez-vous désormais tous les dimanches, 20h12 en fait. Et nous parlons ce soir du cloud, ces millions de serveurs qui hébergent nos données, nos photos, nos musiques. On parle en général de cloud, en français, en bon français, info-nuage ou info-nuagique, ou les nuages, ce qui est parfois pas tout à fait clair. En tout cas, ces millions de serveurs permettent de conserver des photos, des musiques, je l'ai dit, des données. Sont-ils français? Que veut dire pour une compagnie du cloud être français? Nous passons au banc d'essai les différents clouds avec vous, Romain Pigenel. Rebonjour.
Bonsoir.
Rebonsoir, start-upper, cofondateur de Future.io, Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Pour commencer, c'est quoi un cloud, Romain Pigenel?
Très simplement, le cloud, c'est une technologie qui consiste à utiliser des serveurs à distance, soit pour leur capacité de stockage, soit pour leur capacité de calcul. Donc en fait, il y a effectivement l'application, je dirais, entre guillemets, passive que vous avez énoncée en premier, c'est-à-dire l'utilisation simple qu'on peut en faire tous en tant que consommateur pour stocker des données. Et après, l'utilisation plus industrielle, plus pour les entreprises qui peuvent carrément utiliser des ordinateurs à distance, des serveurs pour déporter leur infrastructure, pour ne plus
ce
avoir...
Ce qui permet à de nombreuses startups de se développer très vite puisqu'elles louent non seulement des données, des serveurs pour leurs données, mais aussi les logiciels et des infrastructures qu'elles n'ont pas acheté.
Ce qu'on appelle par exemple l'infrastructure as a service, et ça concerne pas seulement les startups, mais aussi de plus en plus les grandes entreprises qui voilà une capacité, une possibilité à être plus agile, à pouvoir, comme on dit, scaler leurs infrastructures et leurs besoins en fonction de la demande et puis avoir à faire des énormes investissements coûteux et aussi en termes de gérance, évidemment.
Emmanuel Paquette.
Oui, c'est ça. En fait, alors je suis désolé, j'ai parlé un peu d'aspect financier. On transforme ce qu'on appelle des capex en opex. Un capex, c'est je veux une maison, je m'achète ma maison, donc ça me coûte très cher. Et l'autre possibilité, c'est j'ai pas l'argent, je vais louer. Alors donc je loue, ça c'est un opex. Donc l'opex généralement c'est quelques milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros que vous pouvez dépenser chaque mois en location. Et plus vous avez besoin de puissance, de capacité de stockage, et on va louer plus de ressources et vous paierez un peu plus cher. Donc votre loyer mensuel va être un peu plus cher. Mais la contrepartie, c'est que vous n'avez pas à acheter la maison dans laquelle vous allez habiter, vous avez simplement à la louer, donc c'est beaucoup moins onéreux à court terme. Donc les entreprises, ça leur permet quand même d'avoir une structure de bilan qui est beaucoup plus saine et de dégager des bénéfices de manière plus facile.
Alors les entreprises, mais aussi les individus, on parle souvent de lorsqu'on regarde ses photos, lorsqu'on a ses musiques, lorsqu'on écoute Spotify, on visionne Netflix. En réalité, on utilise des clouds, souvent d'ailleurs Amazon Cloud Services, on y reviendra puisque l'essentiel des films, des séries télévisées de Netflix sont hébergés par Amazon, mais ça peut être aussi une Dropbox, sous Apple ça s'appelle l'iCloud, sous Google c'est le Google Drive. Donc on a à la fois des clouds privés pour les individus et puis les clouds d'entreprise dont on a parlé il y a un instant. Quels sont les grands clouds et surtout quand on parle d'un cloud français, puisqu'évidemment ce débat est celui des données, où sont protégées ces données, qu'est-ce que c'est un cloud français, entre guillemets, Emmanuel Paquette?
Alors déjà, il y a trois types de cloud. Il y a ce qu'on appelle le cloud public. Le cloud public, c'est que vous déportez tout dans des serveurs extérieurs. Donc par exemple, si vous utilisez Google Drive, par exemple, chez Google, donc vous stockez vos fichiers d'images, vos textes, c'est un cloud public, n'importe qui peut y avoir accès. Vous, moi, on crée une session, on peut y aller dessus, etc.
Même si notre compte est privé quand même.
Exactement. Ouais. iCloud, c'est pareil. Et chez Microsoft, c'est la plateforme Microsoft Azure, vous pouvez avoir Office 365, par exemple, sur lequel vous pouvez utiliser Word, Excel, etc. Et vous louez, vous payez chaque mois quelque chose à Microsoft pour y avoir accès. Mais tout ça n'est pas chez vous, tout ça est hébergé à l'extérieur, sur les serveurs Microsoft. Après ça, vous avez le cloud privé. Donc là, on parlait d'acteurs du type OVH. Donc là, je suis une entreprise, je crée moi-même ma structure de serveur, je loue ce dont j'ai besoin, mais c'est que pour moi. Personne d'autre ne se connecte sur ces serveurs. Donc ça, c'est le cloud privé. Et ce qu'on appelle le cloud hybride, c'est un mixte un petit peu des deux, c'est-à-dire je peux accéder à des choses privées où j'ai acheté une des capacités de serveurs qui ne sont que pour moi, mais à côté de ça, j'utilise aussi du cloud public, c'est-à-dire, je reprends l'exemple de Microsoft, je vais avoir ma messagerie Outlook qui sera chez Microsoft, donc toute mon entreprise utilisera Outlook pour avoir accès à ses mails. Toute mon entreprise utilisera Office 365 pour utiliser Word, Excel, etc. Et en revanche, mes documents un peu plus sensibles, je les mettrai sur une autre partie privée, pour le coup, qui sera dédiée à l'entreprise.
Romain Pigenel, on a parlé à l'instant d'OVH. C'est quoi OVH ?
Bah, OVH, c'est une entreprise française, une success story, peut-être même une des, je crois que c'est une licorne, enfin, on peut l'appeler comme ça, qui est probablement le seul acteur, alors français c'est sûr, européen, à pouvoir peut-être jouer ou approcher la cour des très grands acteurs du cloud. Donc c'est-à-dire aussi bien pour de l'hébergement de sites, qu'aujourd'hui c'est aussi, là, je crois, le plan qu'ils ont mis en place de développement pour aller concurrencer ou chatouiller les Amazon, les Google, les Microsoft sur le fait de fournir aussi du cloud computing ou tous les types de services qu'on a dit aux grandes entreprises. Et c'est aussi une société qui porte justement un discours, comme d'autres sociétés françaises dans le contexte actuel avec le RGPD, avec les inquiétudes sur ce que peuvent faire les gens américains de données, qui porte un discours sur l'importance justement d'avoir une forme de souveraineté qui soit rétablie sur le cloud. Et pour répondre à la question que vous posiez auparavant, ce serait quoi la question d'un cloud souverain? Ça serait la question de savoir si nos données sont hébergées en France par une entreprise française, et surtout si on va au bout de la discussion sur les serveurs eux-mêmes sur lesquels la France aurait la main ou la
l'autorité, les juridique en tout
voilà,
cas.
Ouais. Ce qui déjà sur ce point-là montre qu'il y a une difficulté, puisque en fait les
même
machines
OVH a des machines aux États-Unis, etc.
Alors d'accord. Il y a ça, et puis aussi qui a fabriqué les machines, et on se souvient notamment que Quant, le serveur, enfin le moteur de recherche, avait été justement un peu pris dans une polémique où il était accusé d'utiliser justement des machines Huawei qui pourraient avoir des backdoors et donc qui pourraient être utilisées, même si tout le service est hébergé en France, qui pourrait peut-être être utilisé par.
Et puis Quant utilise notamment Bing, le moteur de Microsoft, etc. Sur ça, Emmanuel Paquette, on a vu cette semaine le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majdoubi, annonçait qu'il allait utiliser uniquement le service Deezer à la place de Spotify pour être français. Ça veut dire quoi, Deezer, entreprise française, quand on sait qu'elle n'appartient plus à des Français?
Oui, parce que le capital de Deezer aujourd'hui est détenu à majorité par Access Industries, donc une holding, un fonds de capital risque, qui lui-même est détenu par Lev Blavatnik, donc qui est un Russe né en Ukraine. Et c'est aujourd'hui, donc Deezer est russe avant tout et plus du tout français. Alors il se trouve que Orange a toujours une participation capitale autour de 10%, voilà. Il y a d'autres investisseurs qui sont encore au capital de Deezer, mais majoritairement en plus il y a des levées de fonds généralement puisque c'est assez consommateur d'argent l'expansion et le développement de Deezer, donc généralement Access Industries prend des parts à chaque levée de
fonds. Donc le secrétaire d'État, c'était une position très populiste que de dire il faut aller sur Deezer alors même que Spotify paraît plus européen que ne l'est Deezer, paradoxalement.
Exactement. En plus, il faisait un appel à Daniel Marelli qui a quitté la société depuis déjà un certain temps, de Deezer. Donc, effectivement, je pense que là, il y a eu une petite erreur, un petit couac de communication.
Si on prend d'autres exemples, avant d'en revenir au cloud, les entreprises françaises, quand les serveurs sont un peu partout dans le monde, quand il faut des capacités de calcul phénoménales, quand il faut aussi être en réseau, quand par définition OVH veut s'installer par exemple aux États-Unis et donc doit avoir aussi des serveurs là-bas, ça veut dire aussi que le problème des clouds souverains, Romain Piginel, est un problème parfois un peu insoluble.
Oui, en même temps, ce que ça veut dire qu'il faut rien faire, probablement pas. Alors, le terme est justement aujourd'hui, il a un peu une mauvaise presse, parce qu'on se souvient que la France avait eu l'idée, je crois que c'était en 2010.
De créer un
cloud souverain. Alors, le projet qui partait sans doute de très très bonnes intentions avait après accumulé un peu tous les tares habituels. En tout cas, les tares qu'on a souvent vues sur des grands projets informatiques d'État ces dernières années. Donc, il y avait eu d'abord pas un projet, mais deux projets avec deux collectifs d'acteurs, CloudWatt et Numergy. Et après, alors pour plein de raisons, et probablement, je pense aussi, parce que le marché en France n'est pas totalement mûr à ce moment-là, notamment du côté des entreprises. Les deux initiatives ont fait long feu. Alors je crois que CloudWatt continue à fonctionner, en tout cas comme une marque du côté de chez Orange. Mais on voit bien que c'était compliqué d'arriver à imposer des systèmes par en haut et que c'est comme toujours compliqué quand on essaye de faire les choses décrétées sur un coin de table de ministère et pas en partant de la réalité du marché.
Parlons une seconde maintenant, Emmanuel Paquette, du Cloud Act, c'est-à-dire le statut juridique de ces cloud et comment est-ce que c'est négocié actuellement?
En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, l'administration Trump a fait voter une nouvelle disposition au mois de mai 2018 qui fait qu'aujourd'hui, un juge américain qui est en charge d'une enquête peut autoriser la saisine de données qui sont stockées ou hébergées sur des clouds n'importe où dans le monde si la société est américaine. C'est-à-dire si vous êtes chez Amazon, si vous êtes chez Google, Microsoft, ça veut dire que vos données pourraient être consultées par un juge. Alors encore une fois, il faut qu'il y ait une réquisition judiciaire, donc encore une fois, c'est encadré par un juge. Donc ça veut dire que c'est aussi opposable par Microsoft, Google ou un autre, en disant que le juge n'a pas bien fait sa saisine.
On peut faire appel, etc.
Mais en tout cas, dans ce cadre-là, ils peuvent avoir la main sur à peu près toutes les données dans le monde.
Que se passe-t-il pour OVH qui a des serveurs aux États-Unis et pourtant c'est une société française?
Alors OVH et un autre enfin, il y a d'autres acteurs qui ont fait ça. Il n'y a pas que OVH. Ils ont créé donc effectivement des filiales aux États-Unis, mais qui sont distinctes des filiales européennes. Ce qui fait que la filiale américaine, elle est dépendante du Cloud Act. Donc, en cas de saisine d'un juge, elles vont donner les éléments que le juge demandera. Mais en revanche, si le juge fait une demande à l'extérieur du territoire américain, par exemple en France ou ailleurs, alors à ce moment-là, il faudra repasser par le système traditionnel qu'on appelle les accords bilatéraux. On appelle ça le MLAT. Donc, il faut faire une demande au juge français. Et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que le Cloud Act a été voté. C'est pour passer très vite et ne pas avoir un accord bilatéral avec un autre juge dans un autre pays.
Sur cette question, Romain Piginel.
Oui, je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça démontre qu'il y a une immense bataille normative et juridique qui est en train de se mettre en place. C'est probablement aussi une réponse à ce qu'a fait l'Europe avec le RGPD. Et ça préfigure, à mon avis, une évolution qui va être forte de ce secteur du digital et du numérique dans les prochaines années. C'est-à-dire, de plus en plus, on verra des blocs avec à la fois les États et les grandes puissances régionales, que ce soit la Chine, la Russie, qui pousseront de plus en plus leurs intérêts économiques, leurs entreprises, et qui les défendront en utilisant les outils légaux. Et on peut se souvenir à cet égard d'un exemple qui n'est pas numérique, mais qui permet de voir ce que peuvent faire les Américains dans ce cas-là. C'est ce qui est arrivé à Alstom, dont on sait bien que vous vous souvenez de l'histoire avec la filiale qui a été, enfin Alstom qui a été plus ou moins revendue à General Electric. Et on se souvient qu'à ce moment-là, les opérations avaient été facilitées par le fait qu'il y avait en même temps une procédure judiciaire du gouvernement américain. Alors certes sur des faits apparemment réels, mais qui était opportunément, cadencée avec ce que faisait General Electric pour arriver à un peu à affaiblir justement la filière française et à permettre à cette boîte américaine de mettre la main sur son concurrent français.
Je vous propose maintenant de terminer par une sorte de banc d'essai, je l'ai dit, de différents clouds. Alors il faut bien sûr séparer très fortement les clouds qui concernent les consommateurs, donc tout le monde peut utiliser, puis les clouds d'entreprise. Commençons par ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire vers les consommateurs. Les grands clouds les plus utilisés par beaucoup de monde sont l'iCloud pour Apple, l'Amazon Drive, le Google Drive, la Dropbox, il y a aussi Mega. Quels sont vos avis les uns les autres en termes de sécurité, en termes de fiabilité, sachant que la sécurité, c'est à la fois où sont mes données, mais aussi est-ce que le cloud marche. C'est parfois aussi important que de savoir où les données sont stockées, Romain Piginel.
J'imagine, pour est-ce que le cloud marche, que vous faites référence au problème qu'il y avait eu côté OVH il y a un an notamment, qui n'est d'ailleurs pas sur du cloud grand public, mais plutôt sur les...
Du cloud d'entreprise.
Voilà. En l'occurrence, je pense que l'entreprise à l'époque avait justifié ce qui est arrivé en expliquant qu'elle était très mobilisée sur son développement outre-Atlantique. Et ça prouve bien aussi, je dirais, qu'il y a une fragilité de ces acteurs-là, en tout cas quand ils n'ont pas la masse critique que peut avoir un Google ou un Amazon. Et pour revenir un peu à ce qu'on disait auparavant, il y a quand même une importance qui est un soutien de l'État, alors intelligemment, pas forcément en organisant des grandes filières d'en haut, mais pour arriver à ce que les marchés publics, les ministères, etc., appuient par leurs commandes publiques ces acteurs pour qu'ils arrivent à se développer et qu'ils puissent rattraper la masse critique qui est celle des grands acteurs américains.
Emmanuel Paquette, sur le B2C, pour les consommateurs, quels sont les clouds qu'il faut recommander ?
C'est pas tant recommandé que ça dépend des usages que chacun peut avoir. C'est-à-dire, si quelqu'un a un iPhone aujourd'hui, de toute façon, s'il veut changer d'iPhone et récupérer toutes ses photos,
il passe sur un cloud.
Ouais. Il est assez fortement conseillé de passer sur iCloud, même si certains, même ici dans cette salle, n'ont pas souhaité le faire. Mais il se trouve que... pas du tout, moi j'étais obligé de le faire, mais l'environnement fait que, en restant dans l'environnement, mais avec tristesse. Ouais. Voilà,
La Dropbox, ça reste un système assez sûr, qui n'appartient pas à un grand acteur.
Il y a eu des failles de sécurité, mais il y en a régulièrement un peu sur tous les acteurs, donc c'est compliqué. En fait, c'est un peu comme dans la vie réelle. Si vous avez des documents, des choses très importantes, qui sont de l'ordre du confidentiel, que vous voulez pas voir étaler, gardez-le chez vous, sur un disque dur, à vous, chez vous, à la maison, ou une clé USB. Si c'est des photos de vacances, etc., si tant est que ces photos de vacances soient normales, vous pouvez les stocker sur iCloud, Google, etc., c'est pas grave. Je pense que il faut gérer son stockage et ses applications en fonction de la sensibilité et la confidentialité qu'on a derrière ces différents éléments.
Pour terminer, le B2B ce coup-ci, c'est-à-dire pour les entreprises. Alors là, on a des gros acteurs. On a parlé d'OVH, on a parlé de Microsoft Azure, Oracle Cloud, qui est chinois, avec Alibaba Cloud. OVH, donc le français, Amazon Web Services, Romain Piginel.
Je suis bien un expert en bande d'essai, mais je voudrais revenir sur ce qu'on disait juste à l'instant. Vous savez, il y a un petit cartoon qui circule sur Internet chez les développeurs depuis longtemps et qui résume bien la situation. C'est écrit dessus, ce n'est pas stocké dans le cloud, c'est stocké sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc je crois que ça résume bien le problème. Et quand on parlait justement des stratégies de différenciation données...
Mais en même temps, on n'a pas le choix, on ne va pas garder tous ces films Netflix et toutes ces musiques Spotify ou Deezer dans son ordinateur.
Une musique Spotify n'est probablement pas la définition canonique d'une donnée hyper importante.
Oui.
Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant ce qu'a annoncé l'État un peu avant l'été avec sa nouvelle stratégie, puisque l'État veut pousser justement l'administration à faire de plus en plus usage du cloud pour gagner tout ce qu'on a dit en flexibilité, en sécurité. Et on voit la logique que propose l'ANSSI et qui est exactement celle que disait Emmanuel Paquette, c'est-à-dire il y a trois strates. Les informations les plus critiques, les plus importantes pour la sécurité de l'État seront justement sur un cloud qui sera hébergé, contrôlé par l'État. Et après, ce qui est recommandé de mettre sur les clouds publics, c'est uniquement tout ce qui est des informations non critiques, des messageries qui n'ont pas de données sensibles, etc. Donc je pense que c'est le plus important pour une entreprise.
Quelques recommandations, si on veut héberger français OVH, leader européen du cloud et leader français, Amazon Web Services est moins cher, puisque les comptes des utilisateurs sont gratuits au moins la première année, même d'ailleurs sur la durée, c'est assez bon marché. En revanche, ça reste dans les deux cas assez geek, ça veut dire qu'il faut être un peu spécialisé, en tout cas si on veut héberger des sites ou si on est dans le monde professionnel. Par exemple, le système de facturation d'OVH est complètement impossible à comprendre actuellement. On dirait les PTT, on peut pas payer son truc régulièrement. Enfin, ça marche très très mal. C'est pas du tout intuitif. Donc, à un moment, comment est-ce qu'on est sécurisé? Quelle sécurité? Quel usage? Quelle intuitivité? Quelle facilité d'accès aussi? C'est tout ça sans doute qu'il faut prendre en compte.
Oui, effectivement, il y a plein de paramètres, sachant que, encore une fois, quand les données sont stockées sur un serveur extérieur de chez vous, il peut subir des attaques, il peut être volé. On a vu même des stars dont les photos ont été volées sur iCloud. Donc, vos photos à vous, ça peut pas intéresser des pirates, quoique, j'en sais rien. Mais en tout cas, les photos de stars, ça se revend très bien. Donc, faire attention.
Conservez tout sur une petite clé USB. Ouais. On y revient. On l'avait oublié.
Et ne pas la perdre.
Pas
donc, il faut la chiffrer, du coup, voilà.